France Inter.
Couronnée par le César du meilleur espoir féminin pour Les Roseaux Sauvages de Téchiné, le César de la meilleure actrice avec Natacha Régnier pour La vie rêvée des anges d'Éric Zonka, la comédienne Élodie Bouchez a imprégné les pellicules d'Abdelatif Kechiche, Yolande Zuberman, Gaël Morel, Anthony Cordier, Olivier Dahan et tout récemment Gilles Lellouche dans L'amour ouf. Elle a également marqué les spectateurs dans Le péril jeune de Cédric Clapiche. Alterne aussi bien les drames que les comédies. On a pu la voir dans Réalité de Quentin Dupieux ou encore Guy d'Alex Lutz. Celle qui a récemment enchaîné les films s'étonne qu'on pense qu'elle disparaisse quand elle n'est pas sur grand écran. Elle est simplement au théâtre depuis de nombreuses années, notamment au théâtre de la ville Sarah Bernard, où elle joue en ce moment Helena dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mise en scène par Emmanuel de Marcimota. Simultanéité singulière, elle joue une autre sorte d'Helena, je m'expliquerai au cours de l'émission, dans le film « Dis-moi juste que tu m'aimes » d'Anne Leny en salle le 19 février. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Élodie Bouchez.
Bonsoir.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmée ?
D'aller acheter hier le livre de Vanessa Springora et de m'y atteler cette nuit pendant une insomnie.
Patronyme, elle est venue nous rendre visite dans l'émission il y a peu.
Oui, je sais.
Alors j'ai lu qu'hors tournage, vous pratiquiez la danse 3 heures par jour.
Oui, entre 2 et 4 heures selon les semaines.
7 jours sur 7?
Non, 5.
Mais vous vous blessez jamais?
Non, je touche du bois. Parfois, le corps fatigue, mais non, au contraire, c'est plutôt bien de faire circuler.
C'est de la danse contemporaine ?
Oui.
Et alors, j'ai lu qu'à 13 ans, vous étiez inscrite dans l'école de danse de Sylvie Vartan.
Oui, tout à fait.
Comment était-ce et est-ce que Sylvie Vartan venait dans cette école ?
Non, j'ai jamais vu Sylvie Vartan dans l'école. Oui, en fait, c'était une école qui s'appelait le SVS, Sylvie Vartan Studio, qui avait été créée par elle à l'image des écoles de danse new-yorkaises. Un grand studio de danse comme ça, c'était à côté du New Morning, rue des Petites Écuries à Paris. Moi, j'habitais en banlieue, j'avais ma meilleure amie qui dansait aussi, bon, qui elle était une très bonne danseuse, meilleure que moi, et sa mère était fan de Sylvie Vartan, donc elle avait su que cette école existait, et c'est elle qui nous a emmenés toutes les deux un jour pour s'y inscrire.
Comment vous vous êtes retrouvée dans le Champs-Élysées de Michel Drucker ?
Grâce à la danse, justement, il venait choisir des danseurs, des danseuses, pour accompagner les chanteurs dans ces émissions des années 80, où souvent il y avait des chorégraphies derrière les chanteurs. Voilà.
Vous l'avez fait souvent ?
De temps en temps.
C'était rigolo ?
Oui, c'était très rigolo.
Élodie Bouchez, quel est votre rapport au corps ?
Je crois que j'ai un rapport très sain au corps, grâce à la danse, évidemment. Le corps comme allié, comme atout, comme outil de travail, comme matériau de recherche. Voilà, le corps vivant, je suis reconnaissante. Tout part du cerveau, hein, bien sûr, pour que le corps fonctionne. Mais voilà, je suis reconnaissante de pouvoir encore bouger, chercher, pratiquer. Voilà.
Vous avez assez vite associé danse et jeu. Je crois que vous faisiez les Demoiselles de Rochefort à l'âge de 6 ans.
Oui, c'est vrai que j'avais le goût du jeu déjà toute petite. Et très vite, à chaque fois qu'une occasion se présentait, je montais sur scène, quelle qu'elle soit, en colonie de vacances. Oui, une scène pouvait être la table du salon de mes grands-parents ou n'importe quel endroit où je pouvais faire un spectacle et bien sûr me donner un spectacle. Et c'est vrai qu'au Club Med, quand j'avais 6 ans, au mini-club, il y avait des spectacles qui étaient organisés à la fin de chaque semaine et j'avais joué Les Demoiselles de Rochefort. Et j'ai des photos en fait, qui témoignent de ce moment-là.
vous vous décrivez comme contemplative, mais vous dites une manière gracieuse de dire que je suis paresseuse.
Oui, voilà. J'arrive pas bien à faire la distinction entre la contemplation et la paresse, sachant que j'ai pas de jugement sur la paresse, en fait, parce que pour moi, l'esprit fonctionne toujours, même dans ces moments-là. Donc les moments de flânerie, de rêve, d'évasion, ils sont quand même riches. Enfin, en tout cas, pour un acteur, je parle de ce que je connais, ces moments-là, ce sont des moments de recherche aussi.
Vous dites que vous pouvez rester posé sans rien faire et que vous vous connectez aux éléments, que vous vous ressourcez.
Oui, alors j'avoue que je le fais plus facilement quand le temps est clément et j'adore l'énergie du soleil, mais en même temps je me suis retrouvée au fil de mes voyages et au fil des lieux de tournage aussi dans des endroits a priori plus hostiles et où il était possible effectivement de se connecter, enfin en tout cas d'être réceptive au vent, à la tempête, au soleil, à la chaleur. Enfin, moi j'ai l'impression de cohabiter en fait avec la nature et avec les éléments.
Rien ne vous fait peur dans la nature ? Les insectes ?
Non, bah là c'est vrai que la première chose qui me vient à l'esprit c'est le feu, parce que je pense au feu en Californie. C'est vrai que et le feu et l'eau sont deux phénomènes totalement incontrôlables et qui peuvent être absolument dévastateurs. Voilà, c'est peut-être ce qui me ferait le plus peur. Mais dans la nature en tant que telle, et les éléments qui la constituent, sans doute, oui, bien sûr, j'ai peur des serpents, par exemple.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Très dur. Enfin, je l'ai fait. Avec le montage, un peu synchro, du bruit, la musique, la balade de Stan the Flasher. Un flasher, c'est un mec qui ouvre son... qui fait voir, qui se fait voir, mais ça se finit très mal. Hein.
Serge Gainsbourg, en 1990, au sujet du film Stan the Flasher, Élodie Bouchet, c'est lui qui vous avait fait tourner votre premier film à 16 ans.
Oui.
Quel souvenir gardez-vous de ce tournage ?
Je garde un très bon souvenir de ce tournage, mais principalement un souvenir très simple, très harmonieux, très concentré, voilà, sans effet en fait. Après, j'ai bien conscience que même si je m'en rendais pas compte, et même si j'ai processé par la suite plus clairement, c'était quand même assez exceptionnel de pouvoir faire son premier film avec lui.
Il vous a proposé de chanter sur la bande originale ?
Oui. Oui, à la suite du tournage, il m'a recontacté et il m'a demandé si je voulais... Non, il ne m'a pas vraiment demandé, en fait. Il m'a proposé de passer chez lui pour faire des essais de voix avec lui au piano. Donc, moi, je n'avais pas du tout envie de chanter, mais j'y suis allée quand même. Et puis, voilà, on a passé plusieurs heures et quelques jours à essayer. Mais moi, j'étais jeune, je n'avais pas du tout envie de faire ça. Je ne mettais pas de bonne volonté et c'était pas ce que j'avais envie de faire.
Là, il y a quelques années, sur Guy de Alex Lutz, vous avez chanté avec lui Daddy Dou. Moi, ça m'a fait penser à Didou Didouza de Jane Birkin. Vous n'avez jamais été attirée par la chanson par la suite ?
Non, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, quand on parlait de Serge et de sa proposition de participer à la bande originale du film, c'est que je chante mal. Enfin, je sais pas chanter. Je savais encore moins chanter à cette époque. J'avais toujours entendu dire que je chantais mal, mais comme une blague même récurrente. Et je ne chantais pas. Même encore maintenant, je suis pas quelqu'un qui chante,
dans la douche,
qui chantonne et tout ça. Un peu plus, parce que depuis, grâce au théâtre, j'ai pris des cours de chant, donc j'ai appris à apprivoiser ma voix. J'ai un semblant de technique, mais qui ne me fait pas pour autant de moi une chanteuse, et encore moins une bonne et grande chanteuse. Okay. Mais c'est vrai que la proposition singulière d'Alex, avec ce film Guy que j'adore, et sa proposition de me faire chanter, je l'ai abordée de manière beaucoup plus relaxe, en fait, et détachée. Et c'était un vrai plaisir.
Quel souvenir vous gardez de Serge Gainsbourg ? Parce qu'on c'est pas donné à tout le monde de le côtoyer. Enfin, de l'avoir côtoyé, puisque là, c'est quand même un peu difficile de le côtoyer.
Encore une fois, j'en garde un souvenir très simple et très... Enfin, c'était quelqu'un de très attentionné. Avec moi, il a toujours été patient, c'était mon premier film. Il a toujours été extrêmement gentil et, oui, je dirais attentionné. C'est quelqu'un qui portait une grande attention à toutes les choses qui lui étaient chères, j'ai l'impression.
Il était dans le contrôle, comme tous les grands artistes ou assez libre et il laissait un peu les comédiens improviser?
Ce film est très particulier. Il y avait beaucoup de textes. Moi, j'étais une élève qui prenait des cours d'anglais, qui étudiait Shakespeare avec un professeur. Et c'est vrai qu'il y avait, comme il y avait toujours dans toute sa carrière et tout son parcours d'auteur, compositeur, une présence du texte et des mots très forte, et on était dans ce cadre-là, malgré tout. C'était un cadre très précis. Je me souviens d'une scène avec Aurore Clément qui m'évoquait le langage des fleurs, par exemple. Voilà, donc on était quand même dans un récit singulier. On parlait d'un exhibitionniste, mais encore une fois, de manière avec lui tout à fait poétique.
Voici Elena.
Dieu assiste la belle Elena. Où se rend-elle ?
Tu me dis belle ? Ce belle ne le dit pas. Démétrius aime ta beauté. Oh, heureuse belle ! La maladie est contagieuse, oh, que ne l'est la grâce, la tienne. Je l'attraperai, belle Hermia, avant de partir. Mon oreille saisirait ta voix. Et mon œil, ton œil, ma langue, de ta langue, la douce mélodie, si le monde était mien. Mais sans Démétrius, je donnerais le reste pour être en toi changé. Oh, apprends-moi tes façons d'être et de quel art tu agites les mouvements du cœur de Démétrius.
Vous étudiez Shakespeare dans Stan the Flasher de Serge Gainsbourg, Élodie Bouchez, et là on vous entend dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare, mise en scène par Emmanuel de Marcy-Mota et visible au Théâtre de la Ville jusqu'au 14 février. C'est la reprise d'une création de 2023. Vous jouez Elena, amoureuse de Démétrius qui la repousse car il aime Hermia, qui lui est promise, mais qui elle est amoureuse de Lysandre, qu'il aime aussi. Mais par le truchement d'un sortilège de fées, les deux hommes vont se mettre à vous aimer, vous, et vous penserez qu'il vous raille. Et ce qui m'a frappé, c'est que ce manque de confiance que vous avez dans Le songe d'une nuit d'été, eh ben c'est à peu près le même dans Dis-moi juste que tu m'aimes, le film dont on parlera dans quelques minutes.
C'est vrai, tout à fait. Je n'avais pas fait le rapprochement, mais quand vous l'évoquiez déjà tout à l'heure, je me suis dit, ah mais oui, c'est très juste.
Est-ce que vous manquez de confiance en vous dans la vie ?
Je ne pourrais pas vous dire oui comme ça, spontanément. Parce que je pense que lorsqu'on est acteur, et acteur depuis si longtemps que je le suis, maintenant 30 ans, on apprend à évaluer, en tout cas je parle pour moi, à évaluer et à connaître la valeur de ce qu'on propose, de ce qu'on représente dans l'industrie du cinéma ou pas, en fonction des modes et des moments de vie. En tout cas, moi, je me suis forgée une certaine estime de moi-même parce que sinon, c'est très fragilisant. Parce qu'on est tellement soumis tant de fois à des casting, des auditions. On nous renvoie très souvent ce à quoi on correspond dans le marché. Est-ce qu'on est bankable? Est-ce qu'on l'est pas? Est-ce qu'on l'est moins? Est-ce qu'on l'est plus? Voilà, donc au milieu de tout ça, j'ai compris au bout d'un moment qu'il fallait avoir une certaine estime de soi-même pour pouvoir naviguer et garder la tête haute.
C'est loin d'être votre première expérience avec la troupe du théâtre de la ville Sarah Bernard, puisque vous l'aviez rejointe en 2009 avec Casimir et Caroline, puis vous avez joué dans Victor ou Les Enfants au pouvoir et Les Sorcières de Salem. Il y a eu des tournées en Russie, en Corée, aux États-Unis. Et alors, ce qui frappe dans Le Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, c'est qu'il y a vraiment... C'est une pièce tragicomique, c'est-à-dire qu'il y a des couples qui s'aiment mais qu'on veut séparer et qui souffrent presque tous d'un côté, c'est le côté tragique de la pièce, et le contrepoint comique est joué par les rois et la reine des fées, Titania et Oberon, et par la troupe d'artisans qui joue une pièce de théâtre, et notamment un dénommé Bottom, qui est très fat et assez mauvais acteur et qui veut faire tous les rôles.
Oui, cette pièce est très particulière. C'est étonnant d'ailleurs parce qu'il semblerait que ce soit une pièce qui est extrêmement jouée et beaucoup jouée par les jeunes en Angleterre, aux États-Unis. C'est une pièce récurrente dans le cursus des pièces que les jeunes jouent au collège, au lycée. Alors même que nous, quand on a commencé à la créer l'année dernière, ce sont des méandres... incompréhensible. Même encore maintenant, parfois, on sort de scène et on se dit « Ah, mais en fait, quand il s'est réveillé, il l'aimait encore et le sort n'a pas été... » Enfin, nous-mêmes, on continue à se perdre, mais je pense que voilà, on se perd dans ce rêve, dans ce songe. Et qu'il n'y a pas vraiment de porte de sortie, en fait.
Oui, parce que alors pour les auditeurs qui ne seraient pas familiers avec cette pièce, les fées jouent un tour aux humains et d'ailleurs à la reine des fées en enduisant leurs yeux fermés pendant leur sommeil d'une fleur magique qui fait que le premier être vivant, quel qu'il soit, qu'ils verront à leur éveil, eh bien, ils s'en enticheront terriblement.
Je vais, dans cette prose milésienne, te conter toute une série d'histoires variées et flatter ton oreille bienveillante d'un murmure caressant. Pourvu que tu daignes jeter les yeux sur ce papyrus égyptien que la pointe d'un roseau du Nil a couvert d'écriture, et tu t'émerveilleras en voyant des êtres humains changer de nature et de condition pour prendre une autre forme, puis, par un mouvement inverse, se transformer à nouveau en eux-mêmes. Apulée, l'âne d'or.
Extrait de l'âne d'or d'Apulée. Pour Le Songe d'une nuit d'été, Shakespeare s'est inspiré de plusieurs mythes et a fait quelques emprunts, notamment au poète latin Apulée, à Ovide pour Pyrame et Thisbé, la pièce que joue la troupe de comédiens comiques de la pièce, et puis Plutarque pour la vie de Thésée, roi d'Athènes, narrée dans la vie des hommes illustres. Et vous, Élodie Bouchez, est-ce que quand vous préparez une pièce, vous vous plongez dans une documentation, vous lisez des livres, vous vous renseignez ?
Nous, on est toujours beaucoup d'acteurs sur scène auprès d'Emmanuel de Marcimota. Donc c'est un groupe, c'est une troupe avec beaucoup d'acteurs. Donc dans ce spectacle, je pense qu'on est 15, mais souvent on est 17. Donc on est beaucoup à réfléchir ensemble durant le travail de création. Les recherches fusent dans tous les sens. Il y a tout ce travail où Emmanuel, notre metteur en scène, peut nous proposer ou nous évoquer des lectures. On a aussi, on travaille avec nous, avec François Regnault, qui est le traducteur de la pièce, qui est un monsieur absolument fabuleux.
Une nouvelle édition qui est sortie d'ailleurs de
voilà, par lui. Très érudit, qui lui est une source... constante de référence, et encore maintenant, parce que chaque jour, quand on fait les notes du travail, de la représentation de la veille, notre metteur en scène, Emmanuel de Marcimota, est présent à toutes les représentations, ainsi que François Regnault, qui a traduit la pièce. Donc, c'est un travail perpétuel et sans fin, collectif, et pas individuel, je dirais. Donc, je crois qu'aucun de nous ne fait des recherches de son côté. C'est plutôt un travail de groupe.
Il y a une certaine ambivalence autour de votre personnage, et je le souligne parce que j'en parlerai aussi pour le film dont on va parler dans quelques instants. C'est que vous êtes Elena, c'est-à-dire une femme qui aime quelqu'un qui ne l'aime pas, une femme qui ne s'aime pas, une femme qui accepte d'être maltraitée, qui est presque un peu masochiste puisqu'elle le poursuit malgré son rejet. Et alors qu'elle a l'air plutôt d'une victime, qu'elle a l'air absolument adorable, vulnérable, à partir du moment où le sortilège agit et que les deux hommes l'aiment, elle va railler Hermia, qui était son amie, sur sa petite taille. Et elle n'a pas l'air de le faire méchamment, mais elle le fait et la blesse tout de même. Est-ce qu'il y a une ambivalence dans votre personnage ?
Ben, en fait, c'est je ne sais pas s'il y a une ambivalence, parce que le moment où elle décide de railler son amie Hermia, c'est aussi le moment où elle pense qu'Hermia l'a trahie. Et qu'Hermia se joue d'elle.
Oui, en feignant l'amour de...
Voilà. Alors même qu'Hermia est-elle à son tour victime du sort.
Puisqu'elle est rejetée par les deux hommes qui l'aimaient quelques minutes avant.
Voilà. Donc je pense qu'à ce moment-là du spectacle, et c'est d'ailleurs une scène... C'est une très longue scène avec ses quatre amoureux, une scène qui fait quasiment 15 minutes, qui est absolument jubilatoire, parce que c'est à n'y plus rien comprendre, ni pour nous, ni pour les spectateurs quelque part, et ni pour nous acteurs et personnages.
J'ai pensé à quelque chose, puisque justement vous campez une femme qui ne s'aime pas. J'aimerais parler de beauté, parce que quand vous avez joué la femme de l'ogre dans Le Petit Poucet d'Olivier Dahan, vous disiez que ce dernier vous avait imaginé très belle avec des paillettes, des plumes et des perles, et vous avez dit ceci: peut-être que grâce à lui, des réalisateurs plus en place me verront autrement. C'était dans Le Monde en 2000, et 7 ans plus tard, au sujet de Brise de Nice de James Hutt, vous disiez: ce rôle de cowgirl où j'arbore une chevelure rousse bouclée, des shorts en jean, des bottes, m'a valu des commentaires du style « Oh, mais Elodie est belle !» Alors je voulais savoir si vous en doutiez ou si vous en avez douté.
Non, bah, c'est-à-dire que moi, je me suis positionnée très vite, mais pas de manière intellectualisée. Quand j'étais très jeune et quand j'ai commencé ce métier, j'avais une idée, je pense, de l'actrice que j'avais envie d'être et de la jeune fille et jeune femme que j'avais envie d'être, c'est-à-dire de ne pas être soumise au dictat de la beauté, brûlante de la jeunesse. Bon, tout ça au milieu de l'époque grunge des années 90. Donc, c'est vrai que je me suis plutôt positionnée sur des films et des personnages qui me parlaient beaucoup, qui étaient ancrés aussi dans cette période des années 90, comme je pense au personnage de La vie rêvée des anges, d'Éric Zonka.
Qui, paraît-il, vous ressemblait beaucoup ?
C'est quand même une composition, comme toujours. Mais je sais pas si ce personnage me ressemblait, en fait. Peut-être par l'aspect un peu solaire, malgré tout. Et puis voilà, et c'est vrai que j'ai pas joué de la beauté de la jeunesse, et j'en avais pas envie, mais de manière un petit peu punk, quoi, un petit peu provocante même. Et puis... Et comme vous dites, quand Olivier m'a imaginé comme ça, comme la femme de l'ogre, je crois que c'est le premier qui a eu envie de mettre en valeur la femme que j'étais à ce moment-là.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Elodie Bouchet, c'est votre choix musical, Billie Eilish, Birds of a Feather.
Oui, pour plusieurs raisons. C'est un morceau qui a si joliment clôturé les Jeux Olympiques, qui a été quand même, j'ai l'impression, un moment vraiment de joie collective pour nous tous. Un moment comme on en vit plus beaucoup. Et puis aussi parce que souvent j'aime bien, juste avant d'entrer sur scène, écouter un morceau dans mes écouteurs et quelque chose qui n'a rien à voir la plupart du temps avec ce que je vais interpréter. Et en ce moment, c'est ce morceau que j'écoute. Voilà, quelques secondes avant de faire mes pas sur scène.
C'était le couple star de la bande, super drôle, super charismatique, super amoureux. Mais moi, je savais que Julien était l'homme de ma vie. Il était fou d'Anaël, mais j'étais quand même persuadée qu'on finirait ensemble. Toute la bande a commencé à se marier, à acheter des maisons, à faire des bébés. Et c'est là qu'Anaël s'est barrée. Du jour au lendemain, elle a quitté Julien, elle a quitté Van. En fait, ça a été mon grand moment. Toujours présente, toujours de bonne humeur. J'ai fini par le faire rire et voilà. Mariée, deux enfants.
Bravo, bien joué.
J'étais patiente, j'ai pas lâché et j'ai gagné.
C'est beau, cette certitude. Je trouve ça magnifique. Mais pourquoi vous avez peur ?
Disons, dans un couple, il y en a toujours un qui aime plus que l'autre.
Élodie Bouchaz, on vous entend avec José Garcia dans le film « Dis-moi juste que tu m'aimes » d'Anne Leni qui sortira le 19 février. Vous y partagez l'affiche avec Omar Sy et Vanessa Paradis. Vous aviez déjà joué avec Anne Leni, mais qui était actrice dans « Le pacte du silence » de Graham Gitt. Qu'est-ce que ça fait d'être dirigée par une actrice avec laquelle on a joué ?
On s'était brièvement croisés sur le pacte du silence, mais c'est vrai qu'on avait pu passer de bons moments ensemble. Je ne sais pas ce que c'est que... Je trouve que chaque réalisateur, réalisatrice, qu'il soit acteur, actrice ou pas, est tellement un être à part et singulier, qui regroupe une équipe autour d'un projet, que... J'arrive pas à faire vraiment de distinction par rapport au fait qu'il soit acteur ou pas.
Dans ce film, vous êtes mariée à Julien depuis 15 ans, vous habitez à Vannes, et Anaël, le grand amour de jeunesse de Julien, réapparaît après s'être séparé de son compagnon. Et votre personnage est effrayé à l'idée qu'il retombe dans ses bras. Au même moment, le directeur financier de votre entreprise, Thomas, joué par José Garcia, arrive pour un audit. Vous vous confiez à lui, puisqu'il se trouve que l'entretien tombe le jour où vous êtes persuadé que Julien va vous être infidèle. Et finalement, la boisson aidant, vous l'envoyez en repérage pour savoir s'il se trouve à l'endroit où vous pensez qu'il se trouve, et il vous le confirme. Je ne dis pas si c'est vrai ou pas, mais à partir de là, un engrenage va se former, un engrenage assez dangereux, qui est causé par votre manque de confiance en vous, dans le film. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce scénario qui est sur la manipulation ?
Ben, c'est ça, justement. C'est le concept de manipulation.
Vous avez déjà été manipulée ?
Je crois qu'on a tous été manipulés. On a tous subi, à un moment ou à un autre, une forme d'intimidation ou d'ascendance ou d'abus de pouvoir de manière plus ou moins grave et dangereuse, mais partout, dans le travail, en famille... avec ses amis ou ses amours. Je pense que c'est un sentiment qu'on a tous ressenti à un moment ou à un autre. Et comment se dépatouiller d'une telle situation ? C'est un sujet d'actualité, hein, absolument.
J'aimerais bien qu'on parle aussi de la vulnérabilité, et deux sujets d'ailleurs. Le premier, c'est que vous avez l'air fragile dans le film. Mais à nouveau, il y a une ambivalence, c'est que vous avez une force silencieuse, une ténacité. Donc vous n'êtes pas si fragile que ça.
Oui, ça c'était vraiment... Anne Leni me l'a présenté tout de suite de cette manière-là. Elle ne voulait pas faire de ce personnage une simple victime, mal dans ses baskets, vulnérable. Voilà, ce qui l'intéressait aussi, c'était sa force intérieure et sa lumière, sa détermination surtout. Et voilà, c'est des personnages complexes, comme nous tous, en fait.
L'autre thème qui a un rapport avec la vulnérabilité. C'est une métaphore qui court tout au long du film, c'est la métaphore du kitsungi, c'est-à-dire une pratique japonaise où on prend des faïences ou des bols brisés et on les ressoude avec de la feuille d'or.
Oui.
Et donc, en fait, cette métaphore, c'est de faire de nos blessures des choses étincelantes. Est-ce que vous y croyez ?
Bah, je crois surtout que c'est le meilleur moyen d'avancer et de s'en sortir. Et c'est une belle métaphore qui peut nous emmener vers un ailleurs et laisser derrière nous ce qui a pu nous arriver de plus ou moins dramatique, en fait. Donc, moi, je suis pour la poésie, les métaphores, les feuilles d'or et ne pas jeter les bols à la poubelle. Mais au contraire, les réutiliser de cette manière-là.
Ne nous jetons pas à la poubelle.
Quand vous partez sur une enquête sur les EHPAD et que vous partez pour écrire un livre sur les EHPAD, vous ne dites pas que ça peut devenir mainstream. Ce n'est pas le sujet le plus vendeur, le plus glamour, le plus facile à lire. Et vous ne dites pas, moi je dois dire que ça m'étonne, même parfois quand je me balade dans les librairies ou à la FNAC et que je vois même des très jeunes lecteurs de 20 ans ou 25 ans l'acheter, je suis encore, 2 mois après, surpris. Et je me suis rendu compte ces derniers mois, effectivement, que très vite, depuis l'apparition des Bonnes Feuilles dans le monde, ça a enclenché un débat de société et tout le monde a été comme saisi par cette question de la manière dont on traite nos aînés.
Victor Castanet, sur France Culture en 2022, il est l'auteur du livre Enquête dénonçant des maltraitances chez un géant des EHPAD privés, Les Fossoyeurs, adapté en téléfilm pour France 2 par Guillaume Niclou et dans lequel vous avez joué Élodie Bouchez. Il n'y a pas encore de date de diffusion ?
Non, pas encore.
Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Vous voulez dire un petit mot sur ce projet ?
C'est un livre que je n'ai pas lu, que je n'ai pas eu encore la force ou le courage de lire, mais dont j'avais beaucoup entendu parler et je trouvais vraiment super que cette enquête existe et qu'elle donne lieu à un récit. Et puis voilà, c'est la proposition de Guillaume Niclou, avec qui j'avais encore jamais travaillé, qui est un réalisateur très éclectique, dont j'appréciais beaucoup le travail, qui m'a proposé ce projet.
Vous avez tourné plusieurs fois avec Jeanne Herry, et notamment dans « Je verrai toujours vos visages », où vous interprétez une médiatrice qui tente de faire dialoguer une victime et son agresseur. Et c'est à cette occasion que vous avez découvert la justice restaurative. Vous avez une sorte d'engagement social à travers le choix de vos rôles ? Là, je pense aux EHPAD,
oui,
à la justice restaurative.
Oui. Évidemment, d'une certaine manière, vulgariser dans le bon sens du terme tous ces faits de société où, comme dans le cas de « Je verrai toujours vos visages » et de la justice restaurative, mettre en lumière cette pratique, cette forme de justice qui est quasiment inconnue en France et qui malgré tout porte ses fruits dans d'autres pays de manière absolument évidente. C'est quelque chose qui me tient à cœur, oui.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cacher sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes mortel. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, immortel. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Le standard de ce soir, c'est Alain Bachung, Immortel, et vous écoutez la 20e heure sur France Inter. Élodie Bouchèze, je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et vous avez choisi Ultramarin de Mariette Navarro, sorti en 2021 chez Kidam Éditeur. Et alors Céline, qui programme cette émission, m'a dit que c'était formidable.
Ah bah super.
Et ça a donné envie à toute l'équipe de le lire.
Oui, il faut vraiment le lire. Je partais en vacances une semaine sans téléphone portable, j'avais vraiment envie de déconnecter. Là, il n'y a pas très longtemps. Et j'ai demandé à mon libraire de me conseiller des bouquins à lire. Il m'a conseillé celui-ci. Je lui ai fait confiance, même si ça ne me disait pas grand-chose, ce qu'il me disait du bouquin. Et en fait, j'ai été absolument emportée. Je crois que c'est très compliqué de parler de ce livre, parce que c'est un livre qui nous emmène dans une autre dimension, quoi.
Ça se passe en mer ?
Ça se passe en mer. Donc, la dimension de la pleine mer, en fait.
Il y a quelque chose de très mystérieux, presque à la Agatha Christie, qui se produit.
Totalement, c'est des choses qui nous échappent, et même quand on termine le livre, on ne sait pas bien ce qu'on a compris, en fait, du livre. Et voilà, c'est un livre qui me semble être très cinématographique aussi.
Ça a l'air de ne pas vous déranger, de ne pas comprendre tout ce qui se passe. Vous le disiez tout à l'heure pour Le Songe d'une nuit d'été, vous êtes assez tranquille avec le fait de ne pas tout saisir ?
Je crois, oui. Après, il y a sans doute des choses qui m'obsèdent et je crois que j'aime beaucoup comprendre ou s'expliquer sur dans les rapports humains, dans tout ce qui est de l'ordre de l'incompréhension, enfin du malentendu, je dirais. J'aime pas les malentendus, donc j'aime creuser les malentendus. Mais après, l'abstraction, c'est quelque chose qui me plaît aussi beaucoup.
Pourquoi avez-vous quitté votre pays ? Pourquoi avez-vous choisi la France ?
Autorisation provisoire de séjour de 3 mois.
Oui.
Tu n'es pas tunisien par hasard ?
Non, je suis algérien.
Ah, j'aurais cru, c'est drôle. T'as vraiment le type tunisien.
Alors, tu fais les roses maintenant ? Fini les avocats ?
C'est mieux, les roses.
Mesdames et messieurs, on dit que la poésie ne nourrit pas son âme. Nous allons essayer de vous prouver le contraire.
Élodie Bouchèze, on vous entend à la fin de cet extrait dans La faute à Voltaire d'Abdelatif Kechiche, sorti en 2000. Vous disiez dans une interview qui date déjà un peu que c'était votre meilleur souvenir de plateau et qu'il effectuait un tel travail de direction d'acteur que, en comparaison sur les films suivants, vous vous sentiez un peu abandonnée.
C'est vrai. Et d'ailleurs, c'est un sentiment que j'ai pu échanger et partager avec d'autres acteurs et actrices qui ont travaillé avec Abdel. Enfin, certains d'entre eux, comme Sabrina, avec qui je partage l'affiche du Songe d'une nuit d'été, tout à fait, qui a tourné avec lui dans l'Esquive, ou Adèle Exarchopoulos. En tout cas, tous ceux qui, ou Samy Bouajila ou Horatica, tous ceux qui ont aimé travailler avec Abdel et qui ont compris ses intentions, on partage ça, on a ça en commun, on a cette expérience qu'on n'a pas forcément retrouvée ailleurs.
Vous avez aussi joué aux États-Unis des films américains indépendants, une saison de la série Alias de J.J. Abrams et la deuxième saison de Hellworld. Est-ce que vous avez noté une différence majeure dans la façon de tourner en France et aux États-Unis ?
J'ai noté plusieurs choses. C'est-à-dire que dans les films indépendants que j'ai pu faire aux États-Unis, je sentais une volonté, un désir de se calquer sur le modèle européen et le modèle français, avec une grande admiration pour les films que nous produisons, nous. Donc là, il y avait quelque chose qui tendait vers ce qu'on fait, nous, ici, la manière de travailler. Mais par contre, le travail de studio auquel j'ai participé, notamment pour les deux séries dont vous parlez, là, c'était un autre rythme, c'était autre chose.
Vous avez l'habitude avec les 4 heures de danse quotidienne que vous faites. Ça vous fait
oui,
pas peur.
Mais j'avoue que quand même, ils m'ont épuisée, hein, parce que... Ça bosse, quoi, là-bas.
Vous dites, Élodie Bouchet, que vous ne voulez pas aller vers la facilité et que la facilité vous fait plus peur que les risques.
Alors, je prends pas de risques.
Je sais pas. Rôles.
J'ai pas l'impression de prendre des risques, en tout cas. Je dirais pas que la facilité m'ennuie, mais dans la facilité, parfois, il y a quelque chose qui n'est pas assez puissant ou engageant pour qu'on puisse... s'y raccrocher, en fait. Je ne sais pas si je suis très claire. Et dans les choses plus inédites, pour moi, c'est plus facile, quelque part. Parce qu'il y a une autre forme d'écoute, de concentration.
Comme quand vous devez nourrir un fils vampire ?
Oui, par exemple.
Alors ça, je dis juste le titre, c'est « En attendant la nuit » de Céline Rouzet. Tout à l'heure, vous avez parlé du livre de Vanessa Springora. Vous avez joué dans l'adaptation du Consentement de Vanessa Philo. Très brièvement, c'est la dernière question. Est-ce que vous pourriez recommander un livre aux auditeurs, ce que vous lisez en ce moment, n'importe quoi, un livre que vous aimez bien ?
Alors, en ce moment, je viens juste de commencer le nouveau livre de Vanessa Springora, Patronyme. Et je reconnais son écriture magnifique. Qui était présente déjà dans le Consentement. J'ai beaucoup aimé aussi lire un livre qu'on m'a offert pour mon anniversaire. On a retrouvé les écrits de Kiki de Montparnasse. Et c'est tout à fait passionnant sur elle, sur les artistes de cette époque et sur le quartier de Montparnasse de l'époque.
Merci beaucoup, Élodie Bouchaz.
Merci à vous.
Jusqu'au 14 février, vous êtes Elena dans Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare au Théâtre de la Ville Sarah Bernard à Paris, mise en scène par Emmanuel de Marcimota. Le film « Dis-moi juste que tu m'aimes » d'Anne Leny sortira en salle le 19 février. Vous serez prochainement à l'affiche des films « Enzo » de Robin Campillo, « Classe moyenne » d'Anthony Cordier et « Les rives du fleuve » de Guillaume Niclou. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Irma Danich et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Vincent Godard.